Pierre Loti, le château de la Belle au bois dormant. Il y a deux choses que Dieu même ne peut pas faire, un vieil arbre et un gentilhomme. Vieux proverbe de Bretagne. Souvent j'ai jeté un appel d'alarme vers mes amis inconnus pour qu'ils m'aident à secourir des détresses humaines et toujours ils ont entendu ma voix. Aujourd'hui, il s'agit de secourir des arbres, de nos vieux chênes de France que la barbarie industrielle s'acharne partout à détruire, et je viens implorer qui veut sauver de la mort une forêt avec son château féodal campé au milieu, une forêt dont personne ne sait plus l'âge. Cette forêt-là, j'y ai vécu 12 années de mon enfance et de ma prime jeunesse. Tous ces rochers me connaissent, et tous ces chênes centenaires et toutes ces mousses. Le domaine appartenait alors à un vieillard qui n'y venait jamais, vivait cloîtré ailleurs, et qu'en ce temps-là, je me représentais comme une sorte d'invisible personnage de légende. Le château restait livré à un régisseur campagnard solitaire, et un peu farouche, qui n'ouvrait la porte à personne. On ne visitait pas, on n'entrait pas. J'ignorais ce que pouvaient cacher les liantes façades closes et ne regardais que de loin les grandes tours. Mes promenades d'enfants en forêt s'arrêtaient au pied des terrasses moussues, enveloppées de la nuit verte, des arbres et de leur silence. Ensuite, je m'en suis allé courir par toute la terre, mais le château fermé et ses chaînes profondes hantaient mon imagination, toujours. Entre mes longs voyages, je revenais comme un pèlerin ramené pieusement par le souvenir, me disant chaque fois que rien des lointains pays n'était plus reposant ni plus beau que ce coin si ignoré de notre Saintonge. Le lieu du reste se maintenait immuable. Au même tournant des bois, entre les mêmes rochers, je retrouvais les mêmes graminées fines, les mêmes fleurettes exquises et rares. Dans les clairières, sur les tapis des lichens jamais foulés, je voyais ça et là comme autrefois, pareil à des turquoises, les petites plumes bleues tombées de l'aile des geais. Dans les fourrés, les renards en maraude poussaient leur même glapissement du soir, rien ne changeait. Seulement les mousses épaississaient leur velours sur les marches des perrons, les capillaires délicats gagnaient lentement les terrasses, et dans les marais d'en bas, les fougères d'eau se faisaient plus géantes. Or, cette situation de délaissement invraisemblable à notre époque utilitaire s'était prolongée plus d'un demi-siècle, et on se disait que ce sommeil du château, peut-être, durerait longtemps encore, comme il arriva pour celui de la Belle au bois dormant. Mais voici que le vieillard invisible vient de mourir, rassasié de jour. Ses héritiers vont vendre le domaine enchanté, et des coupeurs de forêt sont là prêts à acheter pour abattre. Songez donc, il y aurait 200 000 francs de bois réalisables tout de suite, et la terre resterait. Avec quelle mélancolie l'autre jour, un après-midi de fin d'été, je suis revenu là faire un pèlerinage qui pourrait bien être le dernier. L'un des nouveaux héritiers, jusqu'alors un inconnu pour moi, averti de ma visite, avait eu la bonne grâce de me précéder pour me recevoir. Mais je voulais d'abord être seul, et laissant ma voiture à une demi-lieue du château, en familier de ses bois, je me suis glissé par des 3 sentiers dans le ravin où j'avais eu, au temps de mon enfance, mes visions les plus passionnées de nature et d'exotisme. C'est un lieu certainement unique dans nos climats. La petite rivière sans nom qui traverse toute la forêt dans une vallée très en contrebas s'attarde là, plus enclose de rochers, plus enfouie sous la main des verdures folles. Elle s'épante au milieu des tourbes et des herbages pour former un semblant de marais tropical. Avant que j'aie vu les vraies flores exotiques, Ce ravin déjà les révélait à mon imagination d'enfant. Les arbres qui font de la nuit verte sont singulièrement hauts, sveltes, groupés en gerbes, qui se penchent à la manière des bambous. À l'abri de ces voûtes de feuillage et de cette sorte de falaise qui garantit comme un mur contre le vent d'hiver, toute une réserve de nature vierge demeure blottie dans une humidité et une tiédeur presque souterraines. Les roseaux jaillissent de souches si vieilles et si hautes qu'on les dirait monter sur un tronc comme les dracénas. De même pour la plus grande de nos fougères, l'osmonde, qui semble presque arborescente. C'est aussi la région des mousses prodigieuses qui sur toutes les pierres du sol imitent des plumes frisées et de mille autres plantes inconnues ailleurs, d'une fragilité et d'une défiance extrême qui ne se risquent à apparaître que sur les terrains tranquilles depuis toujours. Il faudrait préserver jalousement de tels édens, sans doute millénaires, que ni volonté ni fortune ne seront capables de recréer. Dans la pénombre de sous-bois, je prends le sentier, plutôt l'incertaine battue, qui passe tout au pied de la falaise d'enceinte. Les rochers surplombent, des roches d'un grisâtre un peu rose, tellement frottées par les siècles qu'elles n'ont plus que des surfaces arrondies. Voici d'abord dans cette muraille une étrange et adorable niche, toute festonnée de stalactites et frangée de capillaires, d'où s'échappe une source. Un peu plus loin, les roches lisses, ayant l'air de se plisser comme des draperies qu'on relève, découvrent peu à peu de profondes entrées obscures, et ce sont les grottes préhistoriques ouvertes le long de ce nombreux carquage. Rien n'a dû beaucoup changer aux entours depuis le temps où des hôtes primitifs y aiguisaient leurs couteaux de silex. Il y en a plusieurs de ces grottes qui se suivent, montrant des porches en plein cintre ou bien dentelées et d'un destin ogival. Et enfin, j'arrive à la plus grande, dont la salle d'entrée a comme un dôme d'église. Le demi-jour verdâtre des feuillets n'y pénètre pas très loin, et on aperçoit au fond, entre les piliers trapus qui lui ont fait les stalactites, des couloirs qui s'en vont plonger en pleine nuit. J'aimais m'y aventurer jadis avec une lampe et un fil conducteur, et je me rappelle qu'une fois, vers ma 15e année, j'avais failli me perdre dans le dédale de ces galeries que tapissaient comme d'épaisses coulées de neige ou de lait et qui s'éteint toutes de la même blancheur de suaire. Le sentier, toujours couvert et demi-sombre, mais de plus en plus facile, remonte enfin au niveau de la plaine, dans des bois touffus, où la flore devient tout autre, sur un terrain sec, feutré de mousses différentes. Maintenant, une large avenue droite, dans la direction du nord, va me conduire au château. Elle passe au milieu des bois, les pervenches lui font au printemps des tapis tout bleus, et les chênes verts la recouvrent, lui donnant l'air d'une interminable nef. On s'en contenterait d'ailleurs de ces chênes-là, mais ce ne sont que des arbres d'une soixantaine d'années, autant dire des arbrisseaux, comparés à ceux qui m'attendent plus loin. Au bout de l'avenue, la nuit verte tout à coup s'épaissit davantage. Ici, les grands chênes ont des siècles, les mousses et les fougères se sont installées sur les vigoureuses ramures. Et enfin commence d'apparaître cette demeure de belle au bois dormant. Dans la même pénombre toujours, c'est d'abord la vieille grille en fer forgé et le perron moussu d'une immense et royale terrasse à balustres, et puis au-delà, encore loin, dans une échappée entre les branches, une façade et des tours dorées au soleil d'automne. Deux pavillons Louis XIII, fermés depuis 100 ans, se dressent aux angles de cette terrasse déserte qui domine de 30 ou 40 pieds la rivière enclose, le monde frémissant des peupliers et des yeuses, la mêlée des herbages, des joncs, des fougères d'eau et des nénuphars, toute l'inextricable jungle d'en bas. Celui des nouveaux maîtres d'océan qui m'attendait vient à ma rencontre. Il va donc me donner accès dans le château près duquel j'ai vécu si longtemps sans y pouvoir entrer. Premier portail en pierre rougeâtre où des bas-reliefs de 4 siècles représentent des lions endormis. Puis donjon avancé du guet, ancien pont-levis, cour d'honneur. Et les tours du château même sont à présent au-dessus de nos têtes, avec leurs créneaux du Moyen-Âge féodal et leurs toits d'ardoise ajoutés lors de la Renaissance. La porte s'ouvre et nous sommes dans la place. Bien que les murailles extérieures n'eussent point de lézardes, je prévoyais un délabrement de logis abandonnés. Non, rien n'a souffert. Les parebras, il est vrai, sont badigeonnés de modestes chaux paysannes, mais tous les plafonds ont gardé leurs énormes solives peinturlurées à la Renaissance, et il suffirait d'un lavage pour en ressusciter complètement les dessins et le coloris. Ça et là, des meubles fanés et à point, des soies qui s'éteignent, du Louis XV, du Louis XVI ou du Directoire. Vraiment un acquéreur assez affiné pour comprendre cette sorte de simplicité seigneuriale qui fut celle de nos châteaux de province à la fin du XVIIIe siècle, n'aurait ici que la peine de prendre place. Une salle pourtant détonne par son luxe plus surchargé. Des artistes de la Renaissance italienne, mandés par les seigneurs d'alors, y avaient prodigué les peintures et les ciselures. Aux murailles et au plafond, des encadrements sculptés en plein bois avec une précieuse finesse entourent de curieux tableaux d'une époque indécise et transitoire où certains visages ont la naïveté des primitifs, tandis que les clairs obscurs et les détails de muscles sentent l'influence de Michel-Ange. Mais ce qui est sans prix, ce qui est sans égal nulle part, c'est la vue que l'on a des fenêtres d'en haut et des chambres des tours. Au-delà des grandes terrasses superposées et des vieux jardins à la française, partout, n'importe où l'on regarde, un lointain qui fait oublier le siècle présent, un lointain qui n'indique aucune époque de l'histoire. Si l'on veut, c'est le Moyen-Âge, ou même c'est le temps des Gaules. Rien que le tranquille déploiement des branches, la paix infinie des choses que l'homme n'a pas encore dérangées. On respire l'éternelle senteur des arbres, des mousses, et de la terre. Vers le sud, il y a les bois par lesquels je suis arrivé et qui tombent dans le ravin des grottes. Dans tout l'ouest, au-dessus de la rivière et d'une ligne rocheuse, ces autres bois très embroussaillés, où je connais des sépultures gallo-romaines et qui, en dehors du champ de la vue, confinent à un étrange petit désert de pierraille. Vers le nord, enfin, c'est un moutonnement de cimes plus hautes et plus sombres d'un vert intense où jamais l'automne ne met ses teintes de rouille. La forêt de chênes verts que nous visiterons tout à l'heure. Et devinant déjà aux allures de mon hôte, à son esprit distingué, qu'il saura comprendre, je lui représente quel crime il commettrait en livrant à des barbares ce domaine. En effet, il était pleinement de mon avis, mais pour des questions de partage, nombreux héritiers tous dispersés et établis en d'autres sites, il fallait vendre, et les coupeurs d'arbres renouvelaient des offres pressantes. « Vous, me dit-il, achetez-le !» Réponse à prévoir, évidemment. Mais ce serait un peu raisonnable fantaisie et pour ne venir jamais, car j'ai déjà, moi aussi, fixé ma vie ailleurs. Le soleil déclinant, nous sommes allés terminer ce pèlerinage dans la forêt de couleur sombre qui, du côté nord, commence tout de suite dès que finissent les terrasses et les vieux balustres. J'ai dit que le ravin des grottes était un lieu unique. De même pour cette forêt-là, en courant le monde, je n'en ai pas rencontré qui lui ressemble, si ce n'est peut-être en un coin perdu de la Grèce. Le chêne vert, qui en France n'existe à l'état d'arbre forestier que dans nos régions sud-ouest tempérées par le vent marin, porte les feuilles d'une nuance foncée, un peu grisâtre en dessous, comme celle de l'olivier, et l'hiver, quand tout se dénue d'ailleurs, il reste en pleine gloire. C'est un arbre d'une vie très lente, auquel il faut des périodes infinies pour atteindre son complet épanouissement. Lorsqu'il a pu se développer dans une tranquillité inviolable, comme ici, son tronc multiple s'arrange en gerbe, en bouquet gigantesque. Alors, avec son branchage touffu du haut en bas, qui descend jusqu'à terre, avec sa belle forme ronde, il arrive presque à la majesté du banyan des Indes. Or, ce coin de forêt n'a jamais été touché au cours des temps. Il s'est fait comme il lui a plu de se faire. Les arbres ne s'y sont pas serrés les uns aux autres, mais déployés avec calme, laissant entre eux des intervalles comme en une sorte de mystérieux jardin. Le sol y est d'une qualité rare, un plateau calcaire sur lequel les siècles n'ont déposé qu'une mince couche d'humus, et qui ne convient qu'à de patientes essences d'arbres, ainsi qu'à de très exquises petites graminées, des mousses et des lichens. Par endroits, ce sont les lichens qui dominent. Les pelouses alors prennent des teintes d'un grisâtre très doux, le même grisâtre que l'on voit ici sur toutes les ramures et à l'envers de toutes les feuilles, et c'est un peu comme si la cendre des âges avait poudré la forêt. Jadis, on avait tracé au travers des chênaies deux ou trois larges avenues, jadis on ne sait plus quand. Elles subsistent sans qu'il soit besoin de les entretenir, car ce terrain ne connaît ni la boue, ni les ajoncs, ni les broussailles. Elles sont adorables, en décembre surtout, ces avenues, puisque les grands chênes verts et les phyliréas, qui forment parfois des charmilles à leurs pieds, jamais ne s'effeuillent. On peut y cheminer plus d'une demi-lieue, sans voir autre chose que ces arbres magnifiquement pareils. Et lorsqu'on arrive enfin au bord de la muraille rocheuse qui limite le plateau et ses futaies pour descendre à la zone plus basse des roseaux et de l'eau courante, l'horizon que l'on découvre est encore un horizon sans âge. Et le charme si singulièrement souverain de cette forêt, c'est l'espace, les passages libres partout. Entre les touffes majestueuses des feuillages vert bronze atténués de grisaille, on circule aisément sur de très fins tapis, et cela donne une impression de bois sacré, de parc élyséen. Séjour pour le calme à peine nostalgique, ou même pour le définitif oubli, dans l'enveloppement des vieux arbres et des vieux temps. Comme nous rebroussions chemin sur les velours délicatement nuancés des mousses vertes ou grises, et que les tours du château, rougies par le soleil couchant, commençaient de réapparaître entre les énormes chênes tranquilles, mon hôte me dit tout à coup « Oh non, c'est trop beau, et nous serions trop coupables. Écoutez, nous allons essayer de surseoir à la vente, si vous voulez nous aider à trouver l'acheteur qui ne détruirait pas. » Voilà donc pourquoi j'adresse cet appel à tous. Et vraiment, j'ai conscience de remplir un devoir envers ma province de Saintonge, même envers mon pays. Il y aura, je le sais, des imbéciles pour dire que je fais une réclame intéressée, mais cela me sera égal parce qu'ils resteront seuls à le croire. À notre époque, qui est celle de la laideur envahissante. Cette rage éhontée de déboiser partout arrive à son paroxysme, et lorsque nos descendants comprendront enfin l'étendue de notre stupidité sauvage, il sera trop tard. Car il faut des siècles et des siècles pour recréer de vraies forêts. Aux Pyrénées restait celle d'Irati, qui était immense et où la cognée n'avait jamais été mise. Or la voici bientôt rasée jusqu'au sol par des fabricants de je ne sais quel carton-pâte. Toutes celles de l'Est vendues à des juifs allemands et celles d'Amboise condamnées à mort. L'Institut de France, qui semble-t-il devrait être gardien de toute beauté, donne lui-même l'exemple du meurtre. Près d'Andaille, où j'ai mon ermitage, deux vieillards que j'affectionnais tendrement avaient en 1902 légué à l'Académie des sciences leur château et leur bois qui s'étendaient jusqu'au bord des hautes falaises marines. Averti par la rumeur publique très accusatrice, j'y suis allé hier pour me rendre compte. Hélas, je n'ai plus trouvé trace des allées où je me promenais naguère avec ces vénérables amis. Les chênes étaient coupés et par endroits les souches arrachées. Ainsi, une compagnie d'hommes distingués ou illustres, qui séparément désapprouverait tous, a pu fermer les yeux sur ce vandalisme. Dans notre pays, cependant, tous les gens riches ne sont pas les grossiers brasseurs d'affaires qui abattent pour alimenter des scieries mécaniques ou des usines à papier. À mon appel, surgira peut-être quelque acheteur d'élite, digne d'être l'habitant du château enchanté et capable de respecter alentour la vie des grands chênes séculaires. Mais qu'il se hâte, car la menace est pressante. Par discrétion envers celui-là, oh, je m'engagerai de bon cœur à renoncer au pèlerinage que tous les ans je faisais dans certains sentiers, satisfait avec la seule certitude que la chère forêt, où sont restés mes rêves d'enfant, poursuivrait le cours indéfini de sa durée, même après que j'aurai cessé de vivre. Post-scriptum. Il faut pourtant bien que je me résigne à faire une sorte d'annonce plus précise, car je m'aperçois que l'on ne saurait même pas de quoi je veux parler. Il s'agit du château et de la forêt de La Roche-Courbon, sise en Saintonge, à 22 km de Rochefort, environ 35 de Royan et 11 de la gare la plus prochaine.